métropole. Marronnage, négritude, littérature, culture, musique, histoire, mémoire, Caraïbes, tout monde, relations, langue, créolité, chronique créole de métropole. Bienvenue dans votre émission Chronique créole de métropole. Dans cet épisode, nous poursuivrons nos investigations sur la créolité. Dans l'épisode précédent, nous étions passés par l'exemple de la Louisiane. Et je vous expliquais que sous administration française et espagnole de la Louisiane, la loi coloniale reconnaissait trois rangs de la société louisianaise. Les blancs, les gens de couleur libre et les esclaves, ce qui n'existait pas en Nouvelle-Angleterre, mais correspondait au modèle colonial latino-américain et des Caraïbes. Mais alors c'est quoi les gens de couleur libre ? Les gens de couleur libre, dans les colonies françaises des Amériques, sous l'empire colonial français, étaient des gens de couleur noire et métis non esclaves. Les gens de couleur, ainsi que les sangs mêlés ou mulâtres, sont des individus nés européens, africains et amérindiens. Ces catégories de la population étaient enregistrées et dénommées scrupuleusement dans les colonies françaises et plus généralement dans les Antilles. La notion de gens de couleur, qui s'est répandue surtout au XVIIIe siècle, a suscité des débats au premier temps de la Révolution française. Pour l'abbé Grégoire, les dénominations gens de couleur, sans mêlée, sont insignifiantes, puisqu'elles peuvent également s'appliquer aux blancs libres, aux nègres esclaves, etc. Mais dans nos îles, l'usage a restreint l'acception de ces mots à la classe intermédiaire, dont les individus blancs et noirs sont les souches. Aux Antilles, la systématisation et la radicalisation de l'emploi des nuances de métissage dans les registres paroissiaux arrive après la guerre de 7 ans, 1756-1763. Les termes suivants étaient utilisés dans les registres paroissiaux, puis dans les actes d'état civil en fonction des différents degrés de métissage. Ainsi, par exemple, à Saint-Domingue, étaient considérés comme griffes les personnes avec trois quarts de sang noir, un quart de sang blanc, comme mulâtres les personnes avec moitié sang noir, moitié sang blanc, et les carterons les personnes avec un quart de sang noir. Mais en Guadeloupe, ce n'était pas la même chose. Par exemple, donc, les personnes avec trois quarts de sang noir étaient considérées comme des capres. On employait le même terme de mulâtre pour les personnes moitié noire, moitié blanche, et le terme de carteron pour les personnes avec un huitième de sang noir, alors que c'était le terme employé pour Haïti pour les personnes qui avaient un quart de sang noir. L'expression « libre de couleur » désigne une des classes juridiques instituées dans les colonies françaises avant l'abolition de l'esclavage. Elle apparaît dans les ordonnances locales et royales promulguées dans les années 1720 à Saint-Domingue pour marquer la distinction avec les nègres affranchis. Cet usage se démarque alors des articles du Code noir de 1685 qui ne faisaient pas de différence entre l'ensemble des gens libres. Cette discrimination se traduisit à partir de 1724 par une politique de ségrégation sociale. Bien que libres, les gens de couleur libre ne pouvaient pas accéder aux postes à responsabilité, fonctions judiciaires, exercice de la médecine, commandement militaire, ni obtenir des privilèges ou des offices royaux en vertu du préjugé de couleur. Dans les actes notariés, 4 degrés de couleur furent introduits, nègre, mulâtre, carteron et blanc. C'est à cette époque que les libres de couleur furent appelés péjorativement les sans-mêlés. Leur égalité juridique avec les Blancs ne sera reconnue qu'en 1792 à la Convention nationale après une série de débats opposant anti-esclavagistes et représentants des colons blancs. Les termes affranchis, anciens libres et gens de couleur mulâtres ont des significations qui sont différentes mais qui recouvrent la même idée générale. Affranchi, un terme qui a signifié ex-esclave, a été largement répandu par des Blancs pour se rapporter à toutes les personnes libres de couleur à Saint-Domingue. Après que l'esclavage a été aboli dans la colonie, le terme « ancien libre » fut largement répandu pour se rapporter à ces gens qui étaient libres avant l'émancipation générale de 1793. « Gens de couleur » était un autre terme appliqué aux personnes libres de couleur, mais spécifiquement aux gens d'origine métissée, par opposition aux noirs libres. Ce terme n'a jamais été employé pour les personnes asservies. Le terme mulâtre fait référence de ceux d'origine française et africaine mélangée et aux personnes libres habituellement visées parce que des mulâtres ont été fréquemment placés libres par leurs pères blancs à cause des degrés variables de culpabilité ou de soucis de la part des pères. Néanmoins, il y avait un certain nombre de mulâtres qui restaient en esclavage. Je vais vous lire un nouveau passage de l'éloge de la créolité. L'enracinement dans l'oral. Notre culture créole s'est forgée dans le système des plantations, à travers une dynamique questionnante d'acceptation et de refus, de démission et d'assomption. Véritable galaxie en formation autour de la langue créole comme noyau, la créolité connaît aujourd'hui encore un mode privilégié, l'oralité. Pourvoyeuse de contes, proverbes, titimes, comptines, chansons, etc., l'oralité est notre intelligence, elle est notre lecture de ce monde, le tâtonnement aveugle encore de notre complexité. L'oralité créole, même contrariée dans son expression esthétique, recèle un système de contre-valeurs et une contre-culture. Elle porte témoignage du génie ordinaire appliqué à la résistance, dévoué à la survie. Après l'effondrement du système des plantations, crise sucrière, abolition de l'esclavage, après les déstructurations, restructurations, conversions et reconversions de toutes sortes qui en ont découlé, assimilation, départementalisation, cette force orale s'est retrouvée tournant à vide, inutile à la promotion sociale, à l'existence citoyenne. Seule la francité, adoption conjointe de la langue française et de ses valeurs, nommait l'homme dans une société en pleine dérive identitaire. L'oralité alors commença son enlisement dans notre inconscient collectif, comme une souterraine transhumance, mais laissant çà et là émerger à l'air libre les fragments épars de son relief discontinué. Le déchiffrement laborieux de son paysage déroutant donna alors lieu à un système de valeurs tout à la fois compensatoire et conjuratoire. Folklorisme et doudouisme devenaient les chefs d'accusation des nouveaux procureurs de la culture authentique. Le terrorisme ordinaire soutenait alors le théorisme distingué, tous deux impuissants à sauver de l'oubli la moindre chansonnette. Ainsi allait notre monde, conflit en dévotion intellectualiste, complètement coupé des racines de notre oralité. Si bien qu'aucun de nos écrivains n'était armé ainsi que l'indique Glissant, pour prendre le relais de la créolité renfermée dans l'abysse de notre parole ancestrale, tous englués à des degrés divers, dans l'obsession d'une transfiguration métamorphique du réel. Le grand soir de la culture paraît aux couleurs du progrès, de la civilisation, du développement. Après nos conteurs traditionnels, ce fut donc une manière de silence. La voix morte. Ailleurs, les aèdes, les bardes, les griots, les ménestrels et les troubadours avaient passé le relais à des scripteurs, marqueurs de paroles, qui progressivement prirent leur autonomie littéraire. Ici, ce fut la rupture, le fossé, la ravine profonde entre une expression écrite qui se voulait universelle ou moderne et l'oralité créole traditionnelle où sommeille une belle part de notre être. Cette non-intégration de la tradition orale fut l'une des formes et l'une des dimensions de notre aliénation. Sans le riche terreau qui aurait pu constituer un apport à une littérature, enfin souveraine, la rapprocher de ses lecteurs potentiels, notre écriture, contrairement à la pratique théâtrale de Henri Melon, Artus Lérus, Joby Bernabé, Elie Stephenson, Roland Brival, Roger Robinel, José Alpha, Vincent Placoli, qui surent à bien des égards s'enrichir de l'oralité, demeurant en suspension. D'où l'instabilité dénominative de la production écrite de nos pays. Littérature afro-antillaise, négro-antillaise, franco-antillaise, antillaise d'expression française, francophone des Antilles, etc. Tous qualificatifs que nous déclarons désormais inopérants. Revenons-en à nos gens de couleur et à nos affranchis. Indépendamment de leur couleur, les affranchis ont pu posséder des plantations et ils ont souvent possédé un grand nombre d'esclaves eux-mêmes. Les esclaves n'étaient généralement pas amicaux avec les affranchis, qui sont parfois dépeints comme un rempart contre les soulèvements esclaves. Comme propriétaires eux-mêmes, les affranchis ont cherché à poser des lignes très distinctes entre leur propre classe et celle des esclaves, souvent travaillant à leur propre compte comme artisans, commerçants ou propriétaires fonciers. Les gens de couleur sont fréquemment devenus tout à fait prospères et beaucoup se sont glorifiés de leur culture européenne. Ils parlaient souvent la langue française, à la différence du créole haïtien qu'ils dédaignaient, parlé par des esclaves. La plupart des gens de couleur étaient catholiques et beaucoup ont dénoncé la religion vaudou comme provenant d'Haïti. Néanmoins, sous l'Ancien Régime, les gens de couleur libre ont été rigoureusement limités dans leur liberté. Ils ne possédaient pas les mêmes droits que les Français blancs. Tandis que la plupart des gens de couleur ont soutenu l'esclavage, au moins jusqu'à la période de la Révolution française. La reconnaissance de l'égalité des droits pour les gens de couleur libre fut l'un des premiers problèmes qu'eut à affronter la Révolution haïtienne, puis la Révolution française elle-même. Il va donc nous falloir faire un petit détour par Haïti. En 1806, la Louisiane, devenue l'un des États des États-Unis en 1803, voit arriver plus de 10 000 créoles, des riches planteurs de sucre d'Haïti. Une partie d'entre eux sont d'abord passés par Cuba, où les 15 années qui ont suivi 1792, date de l'introduction du commerce libre, ont fourni plus d'esclaves que les deux siècles et demi précédents. En 1809, une nouvelle vague d'immigration blanche en provenance de Saint-Domingue arrive en Louisiane. Ils font doubler la population de Nouvelle-Orléans. Vers 1810, on estime que 1000 personnes vivent à proximité de Bâton Rouge dans l'Est, en grande majorité des francophones. La Louisiane ne faisait pas partie des 13 colonies qui ont participé à la Révolution américaine. Mais à partir de 1803, Jefferson faisait la promotion d'une politique expansionniste occidentale. L'achat de la Louisiane a été l'une des meilleures affaires de l'histoire. Cette transaction a été également une chance pour les États-Unis d'acheter ce qui promettait d'être l'un des plus grands territoires de France et d'éliminer une menace européenne dans le processus. On ne peut pas parler de l'achat de la Louisiane sans parler de la Révolution d'Haïti. Connue sous le nom de Saint-Domingue, Haïti était l'une des plus grandes capitales sucrières du monde. Donc, 40% du sucre de la Grande-Bretagne et de la France et 60% de son café étaient produits en Haïti. Une telle production résulte d'un système d'esclavage brutal qui s'est terminé sous la direction de héros tels que Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines qui ont pris le contrôle de toute l'île d'Hispaniola, y compris Saint-Domingue. Mais Napoléon ne pouvait pas accepter l'idée que l'île soit contrôlée par d'anciens esclaves et les tentatives de France d'envahir d'Haïti et de restaurer l'ordre d'origine ont échoué. Napoléon prévoyait d'envoyer des troupes en Louisiane pour prendre le contrôle de la colonie afin d'utiliser le territoire comme lieu d'échange pour les marchandises produites en Haïti. Mais si Haïti était sous le contrôle des esclaves, son plan était nul. Thomas Jefferson et son cabinet, Thomas Jefferson c'est le troisième président des États-Unis, terrifiés par une présence française si proche des États-Unis, ont utilisé cette énigme comme une ouverture. Ils ont approché les Français pour acheter la Nouvelle-Orléans, une ville portuaire d'une importance vitale pour le commerce américain qu'ils craignaient de posséder par la France. À leur grande surprise, la France leur proposa de leur vendre tout le territoire de la Louisiane à la place. Pendant la Révolution haïtienne, beaucoup de gens de couleur riche sont partis comme réfugiés en France, à Cuba, à Porto Rico, en Louisiane ou ailleurs. Des autres, cependant, sont restés pour jouer un rôle influent dans la politique haïtienne. Nous allons à présent marquer une pause musicale avec Leila Makala et Cedric Watson, tous les deux créoles francophones de Louisiane, et ils nous interprètent Pas Janvier. Thank you.
pas janvier, il fait trop de mal. Quand tu me refuses, mes paris. Oh, pas janvier, tu me crèves le cœur.
Après ce petit détour par Haïti, enfin, on parlait évidemment de la Louisiane, mais on a évoqué Haïti, on va revenir à la situation des créoles de Louisiane. La distinction raciale strictement établie, le code noir ne permet pas le mariage entre blancs et noirs, permit pourtant le développement d'un métissage en particulier entre blancs et esclaves. Outre des relations extra-conjugales, le système de placage va institutionnaliser ce genre de pratique. Le placage est en effet un système extra-légal reconnu par la société louisianaise à l'époque de la Louisiane française et jusqu'à la vente de la Louisiane aux États-Unis en 1803. Il consistait à placer une femme, maîtresse ou amante, noire ou mulâtre, dans l'une des résidences d'un maître blanc. S'agissant d'un système de concubinage, indépendant du mariage mais toléré pour pallier la pénurie de femmes blanches, le placage contribua largement au métissage de la population. Avec le temps, les enfants métissés nés de ces unions furent le plus souvent émancipés et leur mère affranchie par la même occasion. Cette génération put également prendre le patronyme paternel. Les historiens évaluent à plus de 1500 femmes de couleur vivant sous le régime de placage. À la mort de son protecteur et amant, la femme placée et les enfants nés de leur union pouvaient prétendre jusqu'à un tiers des biens de l'homme blanc. Certains maîtres nommèrent leurs enfants métis héritiers primaires par rapport à leurs autres descendants blancs ou à leurs conjoints officiels. Un certain nombre de femmes placées purent ainsi ouvrir un commerce et leurs enfants devinrent parfois des hommes d'affaires, entrepreneurs et même hommes politiques. Il se constitua ainsi une bourgeoisie créole au cours du XIXe siècle. De plus, il s'agissait d'une manière efficace pour devenir libre et sortir de la condition d'esclave, ce qui permit d'assurer une certaine mobilité sociale et pour les anciens esclaves d'acquérir la culture française. Cette particularité permit l'émergence d'une nouvelle identité dans la colonie, celle des gens de couleur libre. Après la guerre de sécession, avec la victoire de l'Union, l'homme de couleur libre crut son identité menacée par la suppression de l'esclavage, qui le plaçait dans la même catégorie que les anciens esclaves. Comme les Blancs, quelques 40 ans plus tôt, l'ancien homme de couleur libre revendiqua l'appartenance au groupe des créoles pour faire la distinction avec l'ancien esclave. Quant aux esclaves francophones, ils ont cherché à se constituer une identité catholique et créolophone. Ils ont ainsi intégré la culture française transmise par les métis avec des éléments de culture noire, haïtienne, espagnole et amérindienne. La langue créole est le résultat de ce métissage. Mais cette distinction s'est estompée avec le mouvement des droits civils et le mouvement de fierté noire dans les années 1960, où le noir devait alors choisir entre une identité créole et l'assimilation à la communauté des noirs anglophones, beaucoup plus influente. L'identité noire créole est toujours présente aujourd'hui, surtout avec l'usage du créole louisianais, créole la Louisiane, parlé par 70 000 personnes, particulièrement en Louisiane dans les paroisses de Saint-Martin, Saint-Landry, Jefferson et Lafayette. Il existe des communautés importantes dans l'Illinois et une petite communauté dans le Texas de l'Est. La communauté la plus importante se trouve sans aucun doute en Californie, surtout dans le Nord. Et la France dans tout ça? En Guadeloupe et Martinique, le terme béquet est employé pour définir ces blancs qui ne se mélangent pas. En Guadeloupe et Martinique, le terme béquet peut être employé péjorativement, et même souvent d'ailleurs, pour définir ces blancs qui ne se mélangent pas. Je vais vous faire écouter un extrait, voilà, trouvé sur internet par un descendant de colon qui ne s'est pas mélangé. Et voilà, et écoutez genre le genre de propos qu'il peut tenir. Alors, c'est pas fait pour vous choquer, mais tout simplement pour illustrer une réalité qui perdure encore aujourd'hui, malheureusement.
Les historiens exagèrent un petit peu le problème. Ils parlent surtout du mauvais côté de ça, mais il y a eu un bon côté aussi. C'est l'homme, je suis pas d'accord avec.
C'est quoi les bons côtés de l'esclavage?
Il y a des colons qui étaient très humains. Allez, avec leur esclave. Qui les a franchis, qui leur donnait des possibilités d'avoir un métier, des choses. Donc.
Pourtant, c'est grâce à l'économie esclavagiste que les béquets ont fait leur fortune. Après l'abolition en 1848, les anciens esclaves deviennent des salariés, mais les béquets restent les maîtres de l'économie. Le clivage racial est omniprésent. En 1960, voilà ce que déclarait un parent de Bernard Ayotte devant les caméras de l'ORTF.
Monsieur Ayotte est un béquet.
C'est facile à mener, les ouvriers noirs?
Oui, le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut.
Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet?
Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Les béquets, sont les descendants des blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies.
48 ans plus tard, le discours n'a pas vraiment changé. Aujourd'hui encore, la pureté du sang est un critère d'appartenance à la communauté.
Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sont de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie.
Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sort avec des cheveux crépus, dans la même famille, avec des couleurs de peau différentes. Moi, je trouve pas ça bien. C'est pas. On a voulu préserver la race.
Certains béquets qui se marient avec des gens de couleur sont exclus de la communauté. Sans métissage, le patrimoine a pu rester dans le giron des grandes familles. Les béquets, qui représentent aujourd'hui moins de 1% de la population, concentrent près de 20% de la richesse de l'île.
Voilà, donc petite précision, on entend parler de Bernard Ayotte. Donc le groupe Bernard Ayotte, ou GBH, c'est une entreprise française diversifiée, fondée et présidée par Bernard Ayotte. Il est né en Martinique en 1934, c'est une société par action simplifiée, principalement actif dans l'outre-mer français, qui possède des activités de grande distribution, de distribution automobile, ainsi qu'industriel. Le groupe compte 11 000 salariés en 2019. Le groupe Ayotte est issu donc d'une famille dite béquet. Alors béquet, j'en ai souvent parlé dans cette émission, mais une petite précision. Aux Antilles françaises, un béquet est un blanc créole descendant des premiers colons. Donc béquet signifie créole d'une certaine manière, comme on avait pu le voir en amont de cette émission, dans la mesure où il s'agit de personnes de descendance européenne. Mais cela n'a bien sûr rien à voir avec notre idée de créolité et de créolisation, à laquelle nous sommes bien évidemment plus attachés. C'est pour ça d'ailleurs que je vais faire une autre lecture de ce très bon livre que je vous conseille, hein, « Éloge de la créolité » par Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Hors donc de tout fétichisme, le langage sera, pour nous, l'usage libre, responsable, créateur d'une langue. Ce ne sera pas forcément du français créolisé ou réinventé, du créole francisé ou réinventé, mais notre parole retrouvée, finalement décidée. Notre singularité exposée, explosée dans la langue jusqu'à ce qu'elle s'affermisse dans l'être. Notre conscience en verticalité psychique. L'antidote de l'ancestrale domination qui nous accable. Par-delà le langage pourra s'exprimer ce que nous sommes, notre présence au monde, notre enracinement. Car la langue dominante idolâtrée ignore la personnalité du locuteur colonisé, fausse son histoire, nie sa liberté, le déporte de lui-même. Pareillement, l'idolâtrie par le colonisé de la langue dominée, si elle peut être bénéfique dans les premiers temps de la révolution culturelle, ne saurait en aucune façon devenir l'objectif principal ou unique des écrivains créoles d'expression créole. Toute langue idolâtrée fonctionne comme un masque de théâtre no. Ces masques qui confèrent aux comédiens des sentiments des visages, mais aussi des personnalités autres. Pour un poète, un romancier créole, écrire en français ou en créole idolâtré, c'est demeurer immobile dans l'air d'une action, sans décision dans un champ de possible, immane dans un lieu de potentiel, sans voix dans les grandes transmissions des échos d'une falaise, sans langage dans la langue, donc sans identité. C'est en écriture, ne pas céder à l'acte littéraire, c'est du point de vue de l'esthétique, mourir. La créolité n'est pas monolingue, elle n'est pas non plus d'un multilinguisme à compartiments étanches. Son domaine, c'est le langage. Son appétit, toutes les langues du monde. Le jeu entre plusieurs langues, leur lieu de frottement et d'interaction, est un vertige polysémique. Là, un seul mot en vaut plusieurs. Là se trouve le canevas d'un tissu allusif, d'une force suggestive, d'un commerce entre deux intelligences. Vivre en même temps la poétique de toutes les langues, c'est non seulement enrichir chacune d'elles, mais c'est surtout rompre l'ordre coutumier de ces langues, renverser leurs significations établies. C'est cette rupture qui permettra d'amplifier l'audience d'une connaissance littéraire de nous-mêmes. Je vous le disais tout à l'heure, le problème des béquets en Guadeloupe et Martinique pose problème. Ça crée des tensions, dénoncées par de jeunes youtubeuses. On va écouter une youtubeuse qui s'exprime sur sa chaîne YouTube Grandeur Noire. Et elle nous livre sa vision des béquets.
Le sujet du jour porte sur les béquets. Je vais d'abord définir ce terme puisque beaucoup d'entre vous qui regardez la vidéo ne savent pas à quoi il correspond. Les béquets sont les descendants des colons français qui se sont installés il y a des siècles en Martinique et en Guadeloupe. Hormis leur origine européenne, la particularité des béquets est de s'être enrichis grâce à l'esclavage. Effectivement, les ancêtres des béquets ont exploité les Africains déportés en Martinique et en Guadeloupe pendant plusieurs siècles. Mais ce qu'il faut bien comprendre avec les béquets, c'est qu'aujourd'hui encore, ils continuent d'exploiter la population martiniquaise et guadeloupéenne et ils continuent de s'enrichir en appauvrissant la population de ces îles.
Donc voilà, vous l'aurez compris, ça crée de fortes tensions en Martinique et en Guadeloupe, et parfois même ça politise certains mouvements, tels que celui du front LKP, l'Iena Comprofitation, donc ça veut dire Collectif contre l'exploitation outrancière, c'est un collectif guadeloupéen qui regroupe une cinquantaine d'organisations syndicales, associatives, politiques et culturelles de Guadeloupe. Ce collectif est à l'origine de la grève générale de 2009 qui a touché l'île entre le 20 janvier et le 4 mars. Et son porte-parole est Élie Domota.
La société guadeloupéenne demeure organisée sur une hiérarchisation en fonction des classes sociales et de la couleur de la peau. Au sommet de la pyramide, il y a les Blancs, les béquets, et puis les Blancs qui viennent d'Europe, de France. Et au bas de la pyramide, vous avez les Guadeloupéens d'origine africaine et indienne.
Voilà, c'était Élie Domota. Donc, vous l'avez compris, la situation reste très complexe aujourd'hui. Heureusement, il y a une ouverture littéraire, culturelle, musicale, poétique, théâtrale, qui permet aussi une autre vision de ce qu'est la créolité et la créolisation. Et d'ailleurs, c'est celle-là que je défends. C'est la vision d'Edouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Aimé Césaire, évidemment, et puis toutes les nouvelles générations à venir qui doivent poursuivre justement cette ouverture culturelle vers l'autre, parce que c'est vrai que ça fait bizarre de savoir qu'il y a par exemple des colons blancs qui ne se sont jamais mélangés à la population pour des histoires de races à préserver, et donc qui se sont exclus eux-mêmes, c'est de l'auto-exclusion hein, quelque part, de toute la diversité, de la beauté de ce monde, qui se sont interdits d'aller voir des femmes ou des hommes, en raison de la couleur de la peau de ces autres personnes. C'est assez bizarre, je trouve ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir, mais c'est normal parce que je suis issu, moi, donc d'une famille où il y a eu des mélanges entre personnes de couleur, et on s'en foutait pas mal de la couleur, c'est d'ailleurs... Vous l'aurez compris en écoutant toutes ces émissions, ce sont les autres qui m'ont expliqué qu'il y avait des histoires de race et puis d'ailleurs aussi des histoires de genre. Donc je terminerai cette partie sur la créolité par deux définitions qui me conviennent mieux pour expliquer la complexité de la créolité. Elle est d'abord littéraire. Donc actuellement, c'est la créolisation, une notion d'anthropologie et de linguistique qui désigne essentiellement un processus de création d'une culture ou d'une langue nouvelle à la suite d'un métissage et par émergence spontanée dans un milieu nouveau. Les partisans de la créolité ne sont pas tous d'accord pour que le concept se développe indépendamment de tout ancrage dans une réalité géo-historique définie. Autrement dit, ce concept ne marquerait pas une rupture radicale avec celui de la négritude inventé par Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Léon Gontran Damas. Il n'y a pas unanimité, par exemple, pour admettre Saint-Jean-de-Perse au sein des lettres créoles. Voilà, vous l'aurez compris en écoutant ces émissions, Chroniques créoles de métropole, que ma vision de la créolité, elle évidemment du côté de l'ouverture, du questionnement sur l'autre, et puis donc d'aller questionner l'autre pour trouver des réponses. Quelque chose aussi qui me revient tout à l'heure là, que dans le passage que j'ai lu, on n'est pas dans un monolinguisme ni même dans une sorte de pensée unique, et elle se situerait encore de ce côté. Je vais encore vous lire un passage de l'éloge de la créolité. Une des entraves de notre créativité fut le souci obsessionnel de l'universel, vieux syndrome de colonisé. Ce dernier craint de n'être que celui-même dévalorisé, tout en étant honteux de vouloir être ce qu'est son maître. Il accepte donc, suprême subtilité, de penser les valeurs de ce dernier comme celles de l'idéal du monde. D'où l'extériorité à nous-mêmes, d'où le dénigrement de la langue créole et de la mangrove profonde de la créolité, d'où, à l'exception des miracles individuels, notre naufrage esthétique, notre balbutiement. La littérature créole se moquera de l'universel, c'est-à-dire de cet alignement déguisé aux valeurs occidentales, c'est-à-dire de ce souci de mise en transparence de soi-même, c'est-à-dire de cette exposition de soi aux embellis de l'évidence. Nous voulons approfondir notre créolité en pleine conscience du monde. C'est par la créolité que nous serons martiniquais, c'est en devenant martiniquais que nous serons caribéens, donc américains, à notre manière. C'est par la créolité que nous cristalliserons l'antillanité, ferment d'une civilisation antillaise. Nous voulons penser le monde comme une harmonie polyphonique, rationnelle, irrationnelle, achevée, complexe, unie, diffractée. La pensée complexe d'une créolité elle-même complexe peut et doit nous y aider. La créolité exprimée frémit de la vie du tout-monde, c'est le tout-monde dans une dimension particulière et une forme particulière du tout-monde. Le monde va en état de créolité. Les vieilles crispations nationales cèdent sous l'avancée de fédérations qui elles-mêmes ne vivront peut-être pas longtemps. Dessous la croûte universelle totalitaire, le divers est maintenu en petit peuple, en petite langue, en petite culture. Le monde standardisé grouille contradictoirement dans le divers. Tout se trouve en mise en relation avec tout. Les visions s'élargissent, provoquant le paradoxe d'une mise en conformité générale et d'une exaltation des différences. Et nous pressentons que Babel n'est irrespirable que pour les espaces étroits. Que cela ne sera pas un souci pour la grande voix de l'Europe, que l'on parle breton en Bretagne, corse en Corse, que cela ne sera pas un souci pour le Maghreb unifié, que l'on parle berbère en Kabylie, ou que l'on affirme ses manières en pays touareg. La capacité d'intégrer le divers a toujours été l'apanage des grandes puissances. Les cultures se fondent, se répandent en subcultures qui génèrent elles-mêmes d'autres agrégats culturels. Penser le monde aujourd'hui, l'identité d'un homme, le principe d'un peuple ou d'une culture, avec les appréciations du XVIIIe ou du XIXe siècle, serait une pauvreté. De plus en plus émergera une nouvelle humanité qui aura les caractéristiques de notre humanité créole. Toute la complexité de la créolité. Le fils né et vivant à Pékin, d'un Allemand ayant épousé une Haïtienne, sera écartelé entre plusieurs langues, plusieurs histoires, pris dans l'ambiguïté torrentielle d'une identité mosaïque. Il devra, sous peine de mort créative, la penser dans toute sa complexité. Il sera en état de créole. C'est cela que nous avons préfiguré. Notre plongée dans notre créolité, avec les ressources de l'art, est une mise en relation avec le monde, des plus extraordinaires et des plus justes. Exprimer la créolité sera exprimer les étangs même du monde. Ce que nous avons ressenti, notre acquis émotionnel, nos douleurs, nos incertitudes, l'étrange curiosité de ce que l'on a cru être nos tares, servira dans notre expression réalisée à bâtir l'être harmonieux du monde dans la diversité. On va se quitter en musique parce qu'il y a la littérature, mais il y a également la musique pour ouvrir son cœur, son âme et élargir son regard et son ouïe sur le monde. On va donc écouter de la musique cajun et on va se quitter avec du Zydeco. Voilà, du Zydeco. Alors qu'est-ce que c'est que le Zydeco ? Je vous ai déjà parlé du cajun. La musique cajun était le résultat de l'agglomérat de nombreuses influences. Des formes traditionnelles, anciennes chansons françaises, musique irlandaise et écossaise, valses, ballades venues du vaudeville, auxquelles s'ajoutèrent une forte influence du blues et des sonorités venues du jazz. Enfin, elle incorpora des éléments locaux tels que le Riverman Blues de la Nouvelle-Orléans ou encore des influences afro-caraïbes. Pratiquée par les Cajuns comme les Créoles, la French Music était le fruit d'un mélange d'influences musicales diverses. Jusqu'au renouveau francophone, elle souffrit d'une stigmatisation comparable à celle de ceux qui la jouaient. Le répertoire de base de la musique Cajun se constitua au cours du XIXe siècle dans le cadre des Fées Dodo. Allons à Lafayette, Jôle Blonde, Touche pas la patate, Le vieux Soulard et sa femme, Le vieux Soulard et sa femme furent quelques-uns des titres phares enregistrés dans l'entre-deux-guerres par les compagnies de disques, alors en pleine découverte du potentiel des musiques ethniques sudistes, le blues ou la country. À la suite de la valorisation de la culture cadienne, les créoles recouvrirent également leur culture, une créolité faite de syncrétisme. Ségrégation oblige, la musique des Noirs francophones reçut une appellation différente de celle des Cajuns. Pour autant, leur musique ne diffère guère, si ce n'est une influence plus marquée du blues et de la syncope dans la musique dite créole. Au bout du compte, les influences réciproques l'emportent largement. Il faut insister sur ce point afin de ne pas tomber dans une forme de racialisation des genres musicaux qui ferait fi, en outre, de l'importance des métissages culturels. Le Zydeco a su se renouveler sans cesse, collant aux évolutions musicales. À la vieille musique créole ou au blues des origines, il incorpore une bonne dose de funk, voire de rap. Si l'accordéon dominant et un certain accent témoignent que cette musique vient des Bayous, elle est désormais essentiellement anglophone. Et on se quitte avec Gino De La Fosse qui nous interprète French Rocking Boogie. Voilà, c'était Geno Della Fosse, un grand artiste de Zydeco. Le prochain épisode de Chronique Créole sera consacré à l'auteur Édouard Glissant, auteur de la créolisation et du tout monde.
Chronique Créole de Métropole.
C'est mon amour retrouvé. Demain, j'aurai dans ma main ta main fort serrée. Demain, fini le chagrin, le bonheur m'attend demain. Le temps qui me sépare de toi, tout ce temps-là n'existe pas. Je te vois déjà. Je te vois courir, courir vers moi pour te jeter entre mes bras et puis rire de joie. Demain, tu reviens, demain, enfin tu reviens. Demain, fini le chagrin, le bonheur m'attend demain. Séparés, nos cœurs pourtant n'ont pas changé. L'amour a gagné. Quand demain enfin tu seras là, mes bras se fermeront sur toi pour te garder à moi. Demain tu reviens, demain enfin tu reviens. Demain c'est le jour rêvé, c'est mon amour retrouvé. J'aurai dans ma main ta main fort serrée. Demain finit le chagrin, pour toujours tu me reviens.
Next door, you know, 4 years has up and leave that. C'est la nouveauté. C'est la nouveauté du jour. Que des nouveautés sur Radio Campus. Tu connais pas ? Normal. C'est la nouveauté.
I want a man to run the soul book. Beer, beer, for good. Boy, your brother got the cook. Get down in the pot. I said my body getting hot. Don't have a whole lot left. But I can do my thing. Baby, 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 I'm ready. All right, your brother got your band. I want the band, band. Take me to the beat, take me to the beat. My better beat, you came on my beat. Oh, come on, come on. Listen to my rap. Good God, I'm on a rant. Good God, the soul will be a, be a good. All right, the bell that got to do. Get down in the pot. I said my body getting hot. I want the beat. Bam! Take me to the beat. Take me to the beat. My better beat to hear the whole rock. Come on, give me it. Cuchiflico, por favor.
Antonina, cuchiplito, por favor.
Thank you.